Qu'attend le Seigneur de nous, de son Église, de son peuple? Bonjour Église, bonjour à tous. Je m'appelle Raphaël. Je suis l'un des anciens de l'Église, comme vous pouvez le constater, très âgé. Marié à Cassie, père de Madhu. Ici à l'Église, je suis responsable du ministère des événements, avec ces merveilleuses femmes, qui m'aident constamment. Et, depuis 2 ans, j'ai le privilège d'animer le parcours Alpha. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est un moment détendu où l'on apprend à connaître Dieu, qui est Jésus et le Saint-Esprit. Surtout pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas encore le Christ ou qui souhaitent approfondir leur connaissance du Seigneur, vous êtes les bienvenus. Cela commence ce mardi 14 octobre, à 18h, dans le bureau de l'église, au 3e étage.
Le thème d'aujourd'hui est « Ce que le Seigneur attend de son Église, de son peuple ». Ce thème m'accompagne depuis que le pasteur Clint m'a gentiment demandé de prêcher. Le Seigneur travaille mon cœur depuis 3 ou 4 semaines en préparation de ce jour. Ce qui est curieux, c'est que le Seigneur agit sur mon cœur. Et la façon dont ce message a commencé au début était complètement différente de ce que je vous apporte aujourd'hui. Le Seigneur a travaillé sur mon cœur jusque-là, et j'espère que vous vous joindrez à moi pour entendre ce que le Seigneur veut dire à votre cœur dans la lettre de Paul à Tite. Prions avant de commencer. Seigneur Père, merci pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui, de pouvoir parler à ton peuple. Seigneur, humilie ton serviteur afin qu'il ne parle que ce qui est vrai, ce que tu révèles dans ta parole, ni plus ni moins. Fidélité envers toi, Jésus. Aide-moi, Père, à transmettre cette parole à mes frères et sœurs, et prépare leur cœur à la recevoir. Au nom de Jésus, amen.
Contexte historique et objectif.
Cette lettre a été écrite par Paul, probablement entre 62 et 66. On ne sait pas avec certitude si elle a été écrite entre la première et la seconde lettre à Timothée. Mais il est toujours possible qu'il s'agisse de la première lettre du Nouveau Testament. À partir de là, nous voyons plus en détail ce qui est mentionné dans les 2 lettres pastorales suivantes.
C'est ainsi que ces 3 livres sont appelés. Son objectif principal est de rappeler à Tite la mission que Paul lui avait confiée. Établir des anciens et des responsables dans les églises de Crète, parmi un peuple connu comme étant des gloutons, paresseux et calomniateurs, et parmi lequel les enseignements judaïsants, c'est-à-dire pousser les gens à ne regarder qu'à la loi et non à Christ et à son sacrifice parfait, devenaient de plus en plus courants dans l'Église, causant ainsi des divisions.
Sujet abordé dans le livre. Commençons par une vue aérienne des chapitres. Le premier chapitre débute par la salutation de Paul et sa reconnaissance envers Tite. Il parle des qualités requises pour un presbytre. Dans notre Église évangélique, nous les appelons anciens. Et l'on peut rapidement lire l'avertissement concernant les enseignements judaïsants parmi les habitants de Crète à l'intérieur de l'Église. Ils étaient un peuple glouton, paresseux et calomniateur. Le chapitre 2 traite de la façon dont les relations doivent se vivre au sein de l'Église, et de la manière dont les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes femmes et les jeunes en général doivent se comporter. Paul met l'accent sur la puissance de la grâce salvatrice du Christ et les attentes quant à la conduite que nous, croyants, devons avoir. Ce chapitre sera notre sujet principal aujourd'hui, et j'y reviendrai sous peu. Mais pas avant d'avoir donné une vue d'ensemble du chapitre 3. Dans le chapitre 3, il y a un avertissement général sur le comportement des croyants et l'obéissance aux autorités, la lutte contre les faux enseignements et l'annonce que Tite, après avoir accompli sa mission, passerait le relais à Artémas et à Tychique. Il y est également question du soutien à l'envoi de Zénas et d'Apollos, montrant que même une église à ses débuts avait une vision missionnaire. Si vous n'avez pas encore lu la lettre à Tite, je vous invite à le faire aujourd'hui après le culte et au cours de la semaine. Prenez le temps de réfléchir à ce message puissant. Maintenant, portons notre attention sur le chapitre 2 de la lettre à Tite. Accent mis sur le chapitre 2. J'avais l'intention de prêcher sur tout le livre de Tite. Je me suis dit, oh, seulement 3 chapitres. Nous allons rapidement en venir à bout. Je me suis trompé. Le Seigneur a attiré mon attention sur tellement d'aspects de ma vie que j'en suis resté paralysé. Je suis reconnaissant que Clint m'ait aidé à me préparer et m'ait guidé pour me concentrer sur le chapitre 2. Je ne peux pas non plus oublier le frère Jerry, qui m'a aidé à relire et m'a donné quelques conseils. Merci à vous deux. Commençons par la lecture de l'ensemble du chapitre 2, puis nous allons réfléchir dessus, section par section. Chapitre 2. Quant à toi, enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis aux hommes âgés d'être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, dans l'amour, dans la persévérance. De même, dis aux femmes âgées d'avoir une attitude sainte, de ne pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais d'enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être réfléchies et pures, à s'occuper de leur maison, à être bonnes, à se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas l'objet de calomnie. De la même façon, exhorte les jeunes gens à être réfléchis en toutes choses. Montre-toi toi-même en tout un modèle de belles œuvres. Par ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux, d'une parole saine et irréprochable, afin que nos adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Enseigne aux esclaves d'être soumis à leur maître en toutes choses, de chercher à leur plaire, de ne pas répondre ni de discuter, et de ne rien détourner, mais de montrer en tout une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, et à vivre dans le temps présent, d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de purifier pour lui un peuple qui lui appartienne, zélé pour les bonnes œuvres. Voilà ce que tu dois enseigner. Exhorte et reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Réflexion sur le texte. Verset 1. Mais toi, enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine. Cet aspect est très important. Paul combat ici l'erreur qui se répandait dans l'Église. Et ainsi, Tite devait aider les croyants de Crète non seulement à renforcer leur connaissance, mais aussi à veiller à ce que leur comportement soit cohérent avec ce qu'ils croient. C'est l'antidote le plus efficace, c'est-à-dire le remède pour guérir du poison contre l'erreur. Ce qui m'amène à mon premier point, l'unité dans la compréhension de la parole de Dieu. Nous devons construire une vie fondée sur la parole de Dieu, sur la saine doctrine, ensemble, dans le même esprit. Que signifie la saine doctrine? Cela signifie enseigner, apprendre et rechercher dans la Bible les enseignements de Jésus, sans l'embellir ni la rendre plus laide, sans l'exagérer ni la mépriser, sans la diminuer. Être fidèle à la parole de Dieu. La saine doctrine signifie s'attacher fermement à la parole fidèle, encourager un enseignement saint, poursuivre la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur, et rester irréprochable. C'est ce dont Paul parle dans la première épître à Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5. Paul nous avertit également dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4.
qu'un temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine et se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, qui seront dérangés et refuseront de l'écouter.
Je veux vous inviter, dans cet esprit d'unité et en commençant à bâtir cette connaissance cohérente, à visiter le site web de l'Église avec moi et à lire ensemble ce que nous croyons. Ce que nous croyons. Peu importe vos circonstances ou où vous avez été, vous comptez pour Dieu. Nous sommes tous imparfaits, sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Notre Église croit aux doctrines essentielles du christianisme historique et biblique. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, inspirée et faisant autorité. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons en la divinité de Christ, sa naissance virginale, sa vie sans péché, sa mort sur la croix pour nos péchés, ainsi que sa résurrection et son retour. Nous croyons que tous les êtres humains sont pécheurs par nature et condamnés par Dieu. Nous croyons que Dieu, dans sa grâce, a pourvu au salut pour tous ceux qui l'invoquent.
Nous sommes une église internationale, une église qui parle principalement anglais.
Mais la raison de notre unité doit toujours être que le Christ est notre seul et suffisant sauveur, que nous confessons l'Évangile. Mais en ce qui concerne les questions secondaires, les points de vue ou les préférences, nous ne serons pas toujours unis. Surtout parce que nous venons de différentes nationalités, pays et confessions. Pour y parvenir, nous devons appliquer cette maxime. L'unité dans l'essentiel, la liberté dans les choses non essentielles et l'amour en toutes choses. C'est beau et utile, mais cela ne résout rien. Et c'est le plus grand défi pour le leadership dans les communautés. Garder les gens unis. Mon deuxième point est, l'Église est une famille. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous devons devenir une Église qui marche ensemble, qui soit comme une famille, qui conseille, où nous nous conseillons les uns les autres. Et avec cela, nous verrons ce que disent les versets 2 à 9.
Verset 2. Quant aux hommes âgés, ils doivent être sobres, dignes, sensés, solides dans la foi, dans l'amour et dans la patience.
Ce sont ces hommes sur qui l'Église peut toujours compter. Vous en connaissez probablement un dans votre Église chez vous. Et vous les reconnaissez certainement ici aussi. Ce sont ceux qui sont toujours prêts, qui connaissent bien les Écritures et entretiennent une relation avec Dieu. Et ce sont eux qui marchent avec les plus jeunes hommes. J'ai moi-même deux très beaux exemples d'hommes qui ont marché avec moi. Le premier est Salomon, qui m'a fait découvrir l'Évangile alors que je ne voulais rien entendre de Dieu. Et il a toujours été là, m'encourageant, priant pour moi. Ce n'est que des années plus tard que la grâce du Seigneur m'a atteint. Le deuxième était Gabriel et sa femme Marina. Ils étudiaient avec nous, appelaient pour prier quand il était difficile de le faire seul. Si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à Gabriel. Il y a aussi le frère Jerry, le pasteur Clint. Notre Église est déjà multigénérationnelle, et nous sommes capables de développer nos relations en profondeur. Pas seulement ce petit échange rapide après le culte. Nous devons approfondir nos relations. Bien sûr, nous devons faire des pas prudents les uns vers les autres, car tout le monde dans l'Église n'est pas de Dieu. De plus, il faut se souvenir que l'Église n'est pas un lieu pour des gens parfaits. L'Église ressemble davantage à un hôpital rempli de malades. Nous serons invités non seulement à nous aimer, mais aussi à nous pardonner les uns aux autres ici. Soyons aussi prudents que le serpent et doux comme la colombe. Soyons vigilants lorsque nous entrons dans des relations, mais intentionnelles. Versets 3 à 5. De même que les femmes âgées aient une conduite qui inspire le respect. Qu'elles ne soient ni médisantes, ni asservies à des excès de vin. Qu'elles enseignent de bonnes choses,
afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être réfléchies, pures, occupées aux soins de la maison, pleines de bonté, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
Fait intéressant, Tite est appelé non seulement à établir des anciens en Crète, mais aussi à développer ici le leadership féminin. Considérez le rôle important des femmes plus âgées qui conseillent les plus jeunes femmes, c'est-à-dire celles qui sont mariées depuis plus longtemps, donnant des conseils à celles qui viennent de se marier ou qui vont se marier. Elles sont sérieuses, n'entretiennent pas de mauvaises conversations, ne colportent pas de commérage et ne se livrent pas à des passions ni à des addictions. Elles sont enseignantes du bien, toujours prêtes à servir d'abord leur mari et leur foyer, leurs enfants et leurs églises. En ce qui concerne la soumission à un mari, cela ne signifie pas être sous le joug d'un mari abusif. La violence est un crime et doit être traitée comme telle. Ici, cela signifie qu'ils partagent ensemble une mission, où le mari est le chef et elle l'aide. Cela signifie que, ensemble, ils œuvrent pour le bien de leur famille et de leur communauté. Pour les jeunes femmes, lisez Éphésiens 5 et Proverbes 31 et appréciez la beauté et la joie d'une femme honorable, travailleuse et fidèle. Dieu se réjouit de son service.
Versets 6 à 8. De même, encourage la jeune génération à être maîtresse d'elle-même en toutes choses. Donne toi-même l'exemple de bonnes œuvres. Dans ton enseignement, montre de l'intégrité, de la révérence, une parole saine et irréprochable, afin que ceux qui s'opposent à toi soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de toi.
Lorsque nous sommes jeunes, nous voulons conquérir, changer le monde. Nous débordons d'énergie, et souvent ce qui nous dérange n'est pas la véritable source de notre indignation, mais le résultat d'actions passées et d'événements que nous ne comprenons pas. Parce que nous avons tellement d'énergie, tant de désirs, tant de rapidité, nous sommes incapables d'apprécier ou de vérifier avec précision les différentes possibilités et aspects de certains sujets. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, dit Salomon dans le livre des Proverbes. Le Seigneur nous appelle ici à grandir dans la sagesse qui vient d'en haut, à être de bons auditeurs, à rechercher la compréhension de tout notre cœur, à être modérés, observateurs, réfléchis, droits et à nous conduire de manière irréprochable. C'est en comprenant la puissance et la majesté de Dieu que viendront notre connaissance et la recherche incessante de la connaissance du Seigneur. Et lorsque Paul parle ici à Tite à propos de l'adversaire qui sera confondu, car il n'a rien à dire contre nous, nous pouvons y penser de deux manières. L'une concerne l'ennemi, les Crétois judaïsants, mais nous pouvons aussi considérer Satan comme notre ennemi. Puissions-nous, jeunes gens, garçons et filles ici présents, chercher à vivre une vie de sainteté. Et je ne parle pas de perfection. Je parle du chemin, des bons jours et des mauvais jours, de tomber et de se relever. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1:9. Ainsi nous devons chercher à vivre sincèrement devant le Seigneur. Et, puisque aujourd'hui il n'y a pas d'esclaves parmi nous, nous sommes tous salariés, chefs d'entreprise ou étudiants. Je vous invite à réfléchir au type de service que nous offrons à nos frères et sœurs. Patrons, clients, pour les chefs d'entreprise, enseignants, pour les étudiants, et j'en viens à mon troisième point. Quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Col 3, 23-24. Les serviteurs doivent obéir en tout à leur maître, en leur donnant complète satisfaction. Ils ne doivent pas être bavards, ni dérobés, mais montrer une fidélité parfaite, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur.
L'honnêteté dans ma conduite et la douceur de mes paroles sont la preuve de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Puissions-nous nous rappeler que le Seigneur nous est fidèle
et que c'est lui que nous servons, non les hommes. Lorsque nous servons les autres, nous servons directement Dieu. Je sais que le contexte ici est véritablement celui de l'esclavage, mais nous pouvons facilement le transposer à nos relations en examinant notre attitude et notre fidélité. Versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines, pour vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, dans l'attente de la bienheureuse espérance et de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres.
Mon quatrième point. Réjouis-toi dans la grâce qui a accompli notre salut.
Éphésiens 2, 8, 9. Le salut pour tous, dans ce contexte, signifie pour tous ceux que le Seigneur a atteints, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Si tu es ici ce matin et que tu n'as pas encore placé ta confiance dans le Seigneur, aujourd'hui est le jour du salut. Si tu comprends que Jésus-Christ est le seul chemin vers une vie pure, entière, et qu'il t'apportera la nouveauté de vie, je t'invite à invoquer son nom et à lui remettre ta vie aujourd'hui. Tu peux venir ici prier avec moi dès la fin du message et je te guiderai sur la suite à donner. Si tu ne comprends pas encore mais que tu es curieux à propos de ce Jésus, je t'invite aussi à venir prier ici avec moi. Et vous deux, venez faire alpha, rejoignez-nous, rappelle-toi, cela commence mardi.
Revenons au verset. Ce qui ressort dans ce passage, c'est que Paul rappelle à Tite, mais s'adresse directement à l'Église, car Tite était un homme qui avait marché avec Paul pendant longtemps et qui fut l'un des derniers à rester avec lui, ferme dans l'Évangile, jusqu'à son emprisonnement et sa mort. Je suis convaincu que cette lettre fut lue dans les églises de Crète, et ici, Paul enseigne la doctrine de la grâce, qui est la faveur imméritée de Dieu répandue sur la vie du croyant, afin qu'il ou elle soit prêt et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Ici, nous savons que Paul s'adresse à tous ceux qui croient en Christ, et c'est par cette grâce salvatrice et régénératrice que le croyant peut vaincre le monde. D'abord en étant sauvé, puis en laissant agir la grâce qui sanctifie le croyant, par laquelle nous devenons, chaque jour, davantage semblables à notre Sauveur, dans l'attente de le rencontrer dans la gloire. Cette puissance qui nous transforme nous permettra d'accomplir les œuvres de justice préparées par le Seigneur pour l'édification de son Église, de son peuple, à travers l'enseignement et la lecture publique de la parole, la communauté des saints, l'Église et la prière. En effet, nous devons prendre du temps comme le Seigneur le faisait. Nous devons demander sa faveur, chercher sa face, solliciter sa direction. Et aucune de ces actions ne vient naturellement. Il nous faut dégager du temps et leur accorder la priorité dans nos emplois du temps. Et tout ce qui réussit commence petit. Tu n'as pas besoin de commencer à prier 3 heures comme les grands de notre temps, tels Billy Graham et Martin Luther King. Ces hommes ont commencé petit. Aujourd'hui, va dans ta chambre et parle au Seigneur. Fais une demande, ouvre-lui ton cœur. Demande-lui de t'aider à grandir dans l'intimité avec lui. Laisse le Saint-Esprit agir. Réjouis-toi dans la grâce. Consacre chaque jour et avec intention du temps à Dieu, et il agira. Raconte-moi ensuite comment ta vie a changé. Si chacun de nous fait simplement le pas de passer 1 minute par jour avec le Seigneur, une courte prière et un verset de la Bible, sur ta Bible papier ou ton application, je te garantis que tu verras ta vie changer, que ta communauté changera et que tu expérimenteras la puissance de Dieu dans ta vie.
Et enfin, verset 15, enseigne ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise.
Et voici mon point final. Apprends tout dans le but d'enseigner.
Nous avons été appelés à enseigner la parole de Dieu à toute créature. Cherche donc Jésus dans les Écritures, dans le but d'apprendre à le connaître, mais aussi dans le but d'enseigner les autres. Avec ce dernier verset, vient aussi l'achèvement de ce changement positif qui créera un beau cycle, une vague, que nous, les responsables, avons rêvé de voir arriver, et que nous confions au Seigneur pour qu'il l'accomplisse dans l'Église de l'Évangile. Que notre Église soit un lieu où nous apprenons et enseignons la parole de Dieu, où nous nous exhortons et nous conseillons mutuellement dans l'amour, et grandissons vers notre but, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Puissions-nous susciter un réel intérêt pour la vie les uns des autres, tout comme Salomon et Gabriel, mes amis, frères bien-aimés, l'ont fait pour Mia et ont investi dans ma vie. Investissons sincèrement dans la vie des uns et des autres. De cette manière, aucun faux enseignement ne se répandra, aucune médisance, aucune calomnie, aucune rancœur. Mais nous verrons une amitié florissante, nous nous ferons grandir mutuellement, des relations fortes et profondes. Le pardon, la guérison, car nous sommes enracinés dans la parole, et nous regardons directement vers l'auteur de notre salut, Jésus-Christ, qui poursuivra l'œuvre qu'il a commencée, jusqu'au jour où il reviendra, pour nous prendre avec lui dans la gloire. Et ici, je conclus le message d'aujourd'hui. J'espère que le Seigneur a parlé à ton cœur, et qu'il nous aidera à faire une différence dans la vie des uns et des autres. Inclinez la tête, prions.
Seigneur Dieu, mon cher Père, je remets notre Église de l'Évangile entre tes mains, afin qu'elle soit un canal de bénédiction dans cette ville, dans ce pays. Seigneur, je demande que mes frères et sœurs soient convaincus que nous avons besoin de croître dans la connaissance de toi, et d'avoir de l'intimité avec toi, Dieu. Je te demande, Seigneur, de briser notre orgueil et de nous permettre de nous approcher davantage de toi, Seigneur, afin de jouir du meilleur que tu as préparé pour nous. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, à avoir du respect les uns pour les autres, à intercéder les uns pour les autres, à créer des relations durables et profondes basées sur la parole de Dieu, dans toute pureté et tout honneur. Puisses-tu nous accorder une relation intime avec toi. Puissions-nous être pleinement capables de manier ta parole, de nous conseiller mutuellement, de nous exhorter mutuellement, et de jouir d'une communauté qui grandit vers toi. Non en nombre, Seigneur, non en éloquence, non en belles paroles vides. Le Seigneur ne regarde pas à la performance. Le Seigneur regarde au cœur. Je prie, Seigneur, que tu nous rendes pleinement capables de toute bonne œuvre. Puissions-nous être honnêtes, justes et disposés à nous donner les uns aux autres, au service du Seigneur et pour les besoins des autres.
Qu'il n'y ait personne dans le besoin parmi nous, et que nous soyons le sel et la lumière dans ton Église, parmi ton peuple, et que nous prêchions l'Évangile avec assurance dans ce pays. Au nom de Jésus, amen.
Alors, si le Seigneur t'a parlé ce matin, viens me retrouver ici à l'avant. C'est le moment de l'appel. Et pendant ce temps, nous accueillons ceux qui souhaitent prier ensemble. Je serai ici en bas. Frère Jerry va monter au premier étage. Nous serions heureux de prier avec toi.